Et alors, vous avez une autre partie, le NPOC, le Not for Profit Operational Concerns, où on ne peut accepter en tant que membre que les ONG. Il faut être non for profit pour pouvoir être membre de NPOC. Là aussi, il y a des membres de ALAC, des ALS, qui sont membres de NPOC. Et c'est là que vous posez la question pourquoi. Eh bien, c'est assez simple. C'est une des raisons pourquoi je suis passé de ALAC au GNSO. Comme Tijani l'a bien expliqué, il y a des départements qui donnent du conseil, des avis qui vont jusqu'au board. Et le board peut les accepter ou ne pas les accepter. Ils ont là le choix. Dans le GNSO, c'est quand même différent. Nous, on écrit en fait les lois, pour ainsi dire, les procédures, les règles auxquelles toute la structure des GTLDs, ils doivent respecter ces règles. Et quand on écrit ces règles, le council les vote, quand ils passent, ils montent jusqu'au board, et le board, en principe, va les accepter ou pas accepter. Une fois qu'ils acceptent ces recommandations, ces règles, ils sont implémentés. Et c'est là la différence. Mais c'est là aussi la complémentarité. C'est là qu'on a en fait besoin de travailler de plus en plus ensemble. ALAC et le GNSO, en fait, on a tous les deux quasi la même mission. Et mon but quand je suis passé dans NPOC, c'était d'essayer de voir quand il y a un bon conseil qui commence à bouillir dans ALAC, de capter cela et de le passer dans le GNSO pour voir si on peut commencer à produire déjà des règles qui s'accordent avec ce conseil. Parce que ça pourrait faire gagner du temps. Parce que normalement, quand un avis monte, vous savez très bien, ça ne se fait pas tous les 5 minutes, ça prend du temps. Quand ça monte au board, avant que ça redescende comme une requête dans le GNSO, par exemple, il faut compter 1 ou 2 ans. L'Internet n'attend pas qu'on se décide, malheureusement. Alors, c'est là que je voulais essayer de gagner du temps. Et je sais que Thierry l'a essayé aussi. Et c'est maintenant Olivier Crépin-Leblond qui est le liaison, qui essaye de pointer sur le fait qu'il faut agir plus vite. Il ne faut pas attendre que la bombe explose. Il faut agir le moment que le problème se pose. Et dans NPOC, c'est la constitution la plus jeune. On va avoir 5 ans en juin. Néanmoins, on a actuellement près de 70 membres, ce qui n'est pas mauvais, parce que ce n'est pas évident d'amener un ONG, d'amener les volontaires à travailler encore plus que ce qu'ils font dans leur ONG. Et je suis content de pouvoir vous exposer cela, en fait, aujourd'hui. Et j'espère qu'on peut se revoir dans l'avenir et pouvoir collaborer ensemble. Parce que surtout l'Afrique, pour nous, c'est le continent le plus important. C'est là que l'économie se développe. Dans les autres régions et les autres continents, à part l'Amérique latine et la partie en Asie, tout est déjà développé. L'économie du futur doit venir de l'Afrique. Ça, c'est clair. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter et je suis prêt à donner de plus de détails si nécessaire. Merci.
Merci beaucoup Rudy pour cet exposé un petit peu exhaustif. Pour compléter l'image, on a parlé des constituantes de la communauté d'ICANN. Pour compléter l'image, il y a 2 autres parties qu'on n'a pas citées qui sont le NOMCOM. Le NOMCOM, c'est le Nominating Committee, c'est le comité de nomination qui est là pour, comme on avait dit tout à l'heure, pour nommer des gens au conseil d'administration et aux différents conseils des autres constituencies. Parce qu'on pense que, pour assurer la diversité, si on laisse uniquement les constituencies de choisir eux-mêmes les membres, ils peuvent ne pas assurer l'équilibre nécessaire, l'équilibre régional, l'équilibre, tout genre d'équilibre. C'est pour cela qu'on a créé ce nominating committee pour assurer l'équilibre, pour que, par exemple, dans le conseil d'administration, on n'ait pas des gens que de l'Amérique du Nord ou que de l'Europe, etc. etc. Et il y a une autre entité qui n'est pas tout à fait, qui fait pas tout à fait partie de ICANN, mais qui est intimement liée à ICANN, qui est l'IETF, Internet Engineering Task Force. C'est l'IETF, c'est eux qui développent les protocoles de l'Internet. On a parlé hier dans l'université, j'ai expliqué aux gens qu'il y avait trois parties pour l'Internet. L'Internet est composé, si vous voulez, pour qu'elle marche, il faut trois choses. Il faut les adresses IP, il faut les noms de domaine, il faut les protocoles. Donc, qui développe les protocoles, c'est l'IETF. Et l'IETF, il est financé par l'Internet Society. Et il contribue à l'Internet par le développement des protocoles. Mais structurellement, il n'est pas, si vous voulez, structurellement lié à ICANN. Voilà, donc là, on aurait fini de parler de toutes les constituantes d'ICANN. Je vais vous demander si vous avez des questions. Posez-les, s'il vous plaît. On va avoir peut-être 10 minutes de questions et après, on va passer à l'évaluation. Thierry Pied-Coudol.
Thierry Pied-Coudol, en français. Comme vous le savez peut-être un peu, je suis juriste. Et la question que je voudrais poser dans cette organisation, cette distribution des noms de domaine, c'est comment ça se passe avec le suffixe national. Le suffixe national, par exemple chez nous, le .fr, dépend de l'État. C'est l'État qui décide et qui choisit ensuite ceux qui vont faire le travail technique. Alors, quelle est la relation entre l'ICANN et les États?
Merci beaucoup, Thierry. Le suffixe national dont tu parles, je l'ai appelé tout à l'heure le CCTLD, le Country Code Top Level Domain, ou le domaine de premier niveau code de pays. C'est un domaine Internet. Et donc, ICANN est en charge de déléguer ou ne pas déléguer le domaine. Donc, ceux qui demandent la délégation de ce domaine, eh bien, ils présentent leur dossier. Si leur dossier est bon, ils passent. Si c'est le gouvernement qui présente le dossier, c'est le gouvernement qui a le CCTLD. Sinon, c'est la partie qui l'a présenté. D'ailleurs, maintenant, il y a des privés qui gèrent des CCTLD de certains pays. Des privés. Parce que le gouvernement, dans le temps, n'était pas au courant ou ne s'est pas intéressé ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, encore plus, ICANN ne veut pas interférer dans l'attribution ou obliger ou mettre des conditions. Il faudrait que ce soit le gouvernement qui le fasse. Non, ce n'est pas vrai. C'est celui qui fait la demande. S'il n'y a pas de position, s'il y a quelqu'un qui fait la demande et qu'il y a le gouvernement vient s'opposer, eh bien c'est le gouvernement qui va gagner, c'est normal. Mais s'il n'y a personne, on le donne. Et on l'a donné, on a donné plusieurs CCTLD au privé. Par la suite, une fois que c'est délégué, c'est au CCTLD manager, celui qui va gérer le CCTLD, si c'est le gouvernement, c'est le gouvernement, si ce n'est pas le gouvernement, c'est celui qui le gère. La relation devient une relation avec ce manager-là, et non pas avec un gouvernement ou avec quiconque. J'ai répondu à ta question ?
Tu as répondu à ma question, quoique je trouve la réponse, enfin le système un peu critiquable. Je sais que... Oui, Thierry Pied-Coudol, de nouveau. Le système est quand même un petit peu critiquable, si on en est toujours à premier arrivé, premier servi. Cependant, il est remarquable que dans les Caraïbes, la Guadeloupe et la Martinique possèdent des noms de domaines nationaux, alors que ce sont des territoires français. Donc il n'y a pas lieu d'avoir des noms de domaines particuliers. Mmh. Tout ça, ça devrait être du .fr.
Bon. Thierry, non, justement, tu te trompes. Les CCTLD... Ça, oui, je vais donner la parole à Cyril. Mais les CCTLD, c'est pays... et territoire. Ça peut être, par exemple, tu peux avoir, il y a le point PL qui est Palestine. Pourtant, Palestine n'existe pas c'est Israël normalement. Et pourtant, il y a le point PL. Cheryl, vas-y.
Thank you, Tijani. It's Cheryl Langdonor for the transcript record.
Au micro, Cheryl Langdonor au micro. Je voulais simplement suggérer le fait qu'il y a plusieurs ressources qui pourraient vous paraître intéressantes pour mieux comprendre ce système qui est un petit peu complexe, en effet, des noms de pays. Donc, allez voir sur RFC 1591-1591. C'est vraiment là où on peut obtenir des informations sur les délégations et redélégations pour ces CCTLD, pas seulement pour les noms de pays, les CCTLD, mais également pour les noms génériques. Je vous recommande également de consulter le site web de l'ICANN. Dans le cadre du CCNSO, donc l'organisation de soutien pour les noms de pays, pour les CC, qui a publié l'année dernière un cadre de référence d'interprétation qui représente un exercice, un travail de 4 ans qui a analysé véritablement dans les plus infimes détails 1591 ainsi que les conseils du GAC à ce sujet. Puisque, évidemment, les gouvernements s'intéressent beaucoup à cela. Donc, le comité consultatif des pays, le GAC, travaille beaucoup à cela. Donc, je peux également parler plus personnellement avec vous de cette question. Tijani au micro. Merci beaucoup, Cheryl Langdonor.
Please.
J'ai trouvé Jamel Din Naji.
Votre nom, s'il vous plaît.
Jamel Din Naji, je suis le directeur général de la Haute Autorité de la Régulation de l'Audiovisuel ici au Maroc. J'ai trouvé la question de M. Thierry assez pertinente par rapport au contexte français, mais je vais un petit peu anticiper et vous poser une question qui peut être un problème. Vous avez dit qu'on peut déléguer à quelqu'un de privé pour gérer, puisqu'il y a eu des histoires, et gérer le domaine d'un pays. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un joueur privé puisse donner un domaine près de vous à un gouvernement ou à un État qui est illégitime au regard du droit international ? Comment l'ICANN peut vérifier la légitimité d'un domaine qu'il y a via un privé ?
Justement, Cheryl vient de nous donner les références d'un document qui délégation des domaines de premier niveau, qu'ils soient code de pays ou qu'ils soient génériques. ICANN ne vérifie pas. ICANN, elle reçoit des demandes. Et avec ces demandes, elle a un cahier des charges. Donc, elle compare. Si c'est conforme au cahier des charges, il est délégué. Bien sûr, dans la procédure, il y a des oppositions. Si un gouvernement, le gouvernement correspondant s'oppose, bien sûr, le gouvernement va l'emporter. Mais s'il n'y a personne qui s'oppose, voyez-vous ?
Donc, Maître Hajar Abdelkefi, membre du Conseil de l'Ordre national des avocats de Tunisie. Donc, on peut comprendre, M. Tijani, monsieur les collègues, après votre exposé, le but de cette complexité, peut-on dire, de la structuration de ICANN, cette complexité peut être due à la matière complexe de l'Internet. Mais la première question, est-ce que cette complexité vérifier, entre parenthèses, ne cause pas, au cours du travail, comme on a vu pour cette partie non contractuelle pour pour la GNSO et la LAC, est-ce que ça ne cause pas une, pas une interaction, mais une certaine... un conflit de travail entre les organismes. C'est la première question. Donc, la deuxième question. On relève aussi que les deux organisations, soit nommées une organisation de soutien ou consultative, ces deux organisations n'ont aucune impulsion sur la prise de décision dans ICANN. Donc, ma question, est-ce que vous ne pensez pas que cet aspect consultatif ne mène pas un jour ou un autre à une domination du conseil d'administration à ICANN? Bon, la troisième question, et je termine. Vous ne nous avez pas donné, M. Tijani, la méthode dont vous nommez ou choisissez les membres de ces organes-là. Merci.
Bien. Alors, trois questions. La première, la complexité peut causer des conflits, d'après toi. Bien sûr. De toute façon, la nature complexe, personne n'y peut rien. La nature d'ICANN, c'est qu'elle est complexe. La nature du multi-stakeholder modèle, elle est complexe parce qu'on met toutes les parties prenantes sur le même pied d'égalité. Tout le monde a le droit à la parole. Donc, cette complexité, elle est, si vous voulez, native. Et si ça cause des conflits, on fait de sorte que ça ne cause pas de conflits, mais si ça cause un conflit, il faudrait qu'on trouve une solution au conflit. C'est pour cela que nous avons des mécanismes de résolution des conflits.
Monsieur Tijani, toute cette complexité, elle est nécessaire?
Elle est absolument nécessaire. Si on veut être multi-stakeholder...
C'est la question que je me posais dès le premier jour ici.
Oui, si on veut être réellement multi-stakeholder, il faudrait que ça soit complexe. Autrement, ça va être autoritaire. Le plus simple, c'est de faire comme ça, hein, et tout le monde suit. C'est moins complexe, mais c'est difficile, c'est autre chose. Deuxième question, le conseil d'administration qui prime? N'oublie pas que le conseil d'administration est nommé par nous, par la communauté. Nous nommons Rinali Abdelrahim au conseil d'administration. Le GNSO est nombre de personnes. CCNSO, nombre de personnes. ASO, nombre de personnes. Donc le conseil d'administration est constitué de personnes nommées par la communauté. Et c'est à nous, on les change tous les deux ou trois ans, suivant le cas. Il y a une partie qui est choisie par le NOMCOM, le comité de nomination. C'est pour assurer l'équilibre. Mais le NOMCOM lui-même, il est composé de la communauté. Donc finalement, le conseil d'administration, c'est un reflet de la communauté. Il ne peut pas être, il peut pas devenir une autorité au-dessus. Quand il est en place, il est une autorité. Bien sûr, on a besoin d'une autorité pour décider. Mais c'est une autorité qui émane de la base. C'est clair? Et la troisième question?
Comment ces organismes-là,
oui,
tout, bon,
comment
le conseil est... Alors, un reflet de vous, mais vous, reflet de quoi?
Ah, d'abord, ta question n'était pas celle-là, mais je vais répondre à ta question d'abord. je vais répondre. Ta question était le conseil d'administration, comment on nomme les membres des conseils, toutes les constituencies, y compris le conseil d'administration. J'ai répondu au conseil d'administration. Maintenant, pour nos constituencies, pour ALAC par exemple. ALAC, comme j'ai expliqué, est composé de 15 personnes. Ces 15 personnes sont nommées par les RALO au niveau de 10. Donc il y a 10 personnes qui sont nommées par les RALO. Les RALO, c'est notre base, c'est les organisations régionales. Donc les organisations régionales, par exemple AFRALO, nomment 2 membres d'ALAC. Le troisième membre, il est nommé par le comité de nomination pour assurer l'équilibre, encore une fois. Donc, le ALAC, il reflète bien la base qui est les RALO. Et les RALO, comment ils sont là, le leadership des RALO? Eh bien, ils sont élus par leur base, par les ALS. Si tu veux, tout le système, il est bottom-up, il est du bas vers le haut. Il n'est pas du haut vers le bas. J'espère que j'ai répondu à ta question.
Euh,
Cheryl Langdenor for the transcript record.
Cheryl Langdenor au micro, très brièvement. Tijani, j'ai noté qu'il y a un intérêt fort sur ce que j'avais dit au sujet de la délégation de CCCTLD. Et il me semble, si vous pouvez accepter mon offre, nous pourrions travailler avec le personnel du CCNSO, Bart en particulier, et nous pourrions faire un webinaire et des publications par voie informatique. Nous pourrions avoir des questions, réponses au moment du webinaire, mais aussi tout enregistré pour que ce soit disponible et consultable par la suite. Très bonne suggestion, Cheryl. Tijani au micro. Je vais rajouter cela au micro. Donc, j'ai deux mains qui se lèvent et j'aimerais donner la parole à Fatma et Behran.
Galouz.
Merci, mais là, c'est clair. Avec le schéma, c'est clair. Merci.
Okay. Behran.
Thank you, Tijani. Thank you, Cheryl. I think...
Merci beaucoup. C'est une très bonne idée, cette idée de webinaire, d'en savoir plus sur la redélégation. Et c'est un processus très important. J'aimerais savoir plus sur la redélégation. Ça m'interpelle beaucoup. Merci. Aïsek Maposa, au micro. Aïsek Maposa, au micro. Aïsek Maposa, au micro. Est-ce qu'il serait possible de travailler un processus pour que l'ICANN ait une influence sur la gestion des CCTLD sans avoir un divorce avec le management de ces domaines, sans que cela pose des problèmes pour l'écosystème de l'Internet? Il y a des pays qui protègent beaucoup leurs CCTLD, qui ont des politiques en place très fortes. Merci beaucoup. Oui, je suis désolé, je n'ai pas entendu votre question, mais un instant, s'il vous plaît. Je suis désolé. Veuillez répéter, s'il vous plaît, monsieur. Je m'appelle Isaac Maposa. Et est-ce qu'il y a une manière pour que l'ICANN travaille à une procédure concernant les CCTLD, parce que certains pays protègent beaucoup ces domaines et mettent en place des politiques qui ne permettent pas à l'écosystème de l'Internet de connaître une croissance? Donc, je crois qu'il y a un divorce possible avec les gestionnaires, peut-être, des noms de domaine. Donc, il y a des problèmes qui peuvent se poser à ce niveau-là. Donc, oui, je comprends. Merci de cette question, monsieur. Tijani au micro. Cette suggestion de faire un webinaire sur la délégation et redélégation est une excellente idée, parce que l'ICANN, lorsque nous avons un responsable de CCTLD, si on n'a pas un dossier de demande de redélégation, l'ICANN ne peut rien faire. Donc, s'il y a d'autres parties prenantes qui veulent obtenir le nom de domaine, le domaine, plutôt que le gouvernement, eh bien, il faut qu'ils déposent un dossier de redélégation. Et comme je l'ai dit, nous avons nos règles de redélégation. Et si c'est conforme aux règles, ce sera fait. Sinon, ce ne sera pas effectué. Donc, l'ICANN ne veut pas influencer les clients, si vous voulez. L'ICANN a des règles, beaucoup de règles, et respecte constamment ses propres règles. On va faire un webinaire très rapidement à ce sujet. J'espère que vous viendrez au webinaire pour que vous puissiez voir un petit peu plus clair. Et je vous donnerai des références sur ce document pour que vous puissiez le lire. Donc je crois que nous allons devoir maintenant arrêter notre discussion et passer à la deuxième partie de notre réunion. Nous n'avons que 5 minutes et j'aimerais demander aux 5 ONG de nous dire un petit peu plus, de nous en dire un petit peu plus. Qu'avez-vous pensé, c'est l'évaluation, comment avez-vous pensé de cette séance de renforcement des capacités? Ça vous paraît utile, pas utile, à améliorer? Dites-nous ce que vous en pensez. Ajar, Aïcha, Fatma, Kiri, Ajar, allez-y.
Pour ce grand effort que vous avez fourni pour la formation des nouveaux arrivés au monde ICANN, l'effort est formidable, il est observé et on peut le voir. Mais à mon avis, tout travail humain il est accessible au développement. Donc je propose pour les prochaines fois que ce travail soit fait suivant une tadarruj, une progression du général au spécial, parce que j'ai observé que de la première fois ce qu'on a fait aujourd'hui, j'ai voulu que ça peut être pour la première fois. Donc je propose que le travail soit fait suivant du général au spécial. Merci.
Fatma.
Oui. Fatma de Mauritanie. Merci beaucoup, Tijani. Moi, je me félicite beaucoup de cette initiative de renforcement de capacité. Moi, c'est ma deuxième ICANN, mais je sors renforcée parce que j'ai un schéma maintenant global, surtout avec le dernier tableau des différentes fonctions. Et vraiment, je sens que je peux parler d'ICANN maintenant. Merci beaucoup. C'était nécessaire. Il fallait y penser. Et c'est par expérience, je sais que vous savez que nous, on en a. C'est pas évident. C'est pas évident d'inviter des gens et de prendre en compte leurs besoins. Et c'était important pour nous de mieux connaître les méandres de ICANN parce que c'est pas évident, comme je l'ai dit. Merci beaucoup. Merci. Une petite doléance, si on pouvait avoir le dernier schéma là, si on pouvait l'avoir, ce serait vraiment plus clair encore. Merci beaucoup.
Thierry, do you want to... Ah. Ok, go ahead. Aïcha.
Salam alaikum. Aïcha Abad, dans Corrigé Maroc. Je suis impressionnée de découvrir qu'il y a la gouvernance, mais dans la pratique. Pour moi, ICANN, c'est de la gouvernance. C'est du bas en haut, ça évolue. Merci pour la générosité de tous les membres. J'ai beaucoup appris de Grisella, Tijani, tout le monde. C'est un partage formidable. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris. C'est vrai que je suis membre d'ISOC Chapitre Maroc, qui est une partie d'ICANN, mais on est très fatigué, mais vraiment, c'est un apprentissage énorme. Et moi, j'ai une demande, si vous voulez bien. C'est que moi, ma référence, c'est les zones marginalisées et vulnérables. Donc, et comme j'ai demandé hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, c'est que, par exemple, vu la difficulté et l'absence d'infrastructures et la difficulté d'avoir accès à Internet, comment faire pour distribuer des clés USB, je ne sais pas, il faut inventer un système pour répondre aux besoins des gens qui sont dans des situations de vulnérabilité internautique. Merci.
Merci Aïcha. Thierry?
Thierry Pied-Coudol. Comme Les autres nouveaux venus, cher Tijani et même Aziz, on pense à lui même s'il est absent et pris par autre chose actuellement. Nous vous remercions de toute cette information, cette documentation également, mis à notre disposition, de nous expliquer tous les rouages de l'ICANN. Maintenant, je reviens à mon propos de base, celle qui concerne mon ONG camerounaise, et nous avons besoin d'en savoir plus sur le fonctionnement des noms de domaine, sur leur dissémination, moins que finalement les structures internes de l'ICANN. Ça va venir. Mais pour le moment, j'avais déjà utilisé ce terme, l'Afrique centrale, il n'y a pas que l'Afrique centrale dans l'observatoire que je représente, mais est dépourvue. Donc on a besoin d'en savoir un peu plus sur le mode, comme je disais, pas de fonctionnement, de dissémination, de distribution des noms de domaine, parce que le rôle de mon organisation non gouvernementale est d'être un observatoire, et donc nous voulons observer ce qui se passe dans les 14 ans, dans les 17 pays, et de dire, eh bien, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Ben, ceci, cela, et pourquoi ça ne marche pas, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit mieux. Voilà. Donc, merci pour la description des organes internes. Moi, ça me va parce que je suis juriste. Bon, donc vous m'expliquez comment ça fonctionne. Bon, donc ça me va bien. Mais je pense à mes amis de l'Observatoire, et eux, finalement, je ne suis pas certain qu'ils soient passionnés, pour le moment, par les rouages internes de l'ICANN. Ils seront passionnés quand ils vont venir. Bon. Mais on a besoin d'en savoir plus. Alors peut-être que c'est les webinaires et tout ça qui vont assurer un niveau de formation. Ça a été dit plusieurs fois. On peut faire des webinaires. On peut même appeler, l'ICANN peut même appeler des gens par téléphone. Donc ça, c'est extrêmement favorable. Et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que je vais insister auprès des membres de l'Observatoire pour arriver à un bon niveau de compréhension et de formation des membres.
Cheryl, do you want to intervene now or at the end?
Cheryl, vous voulez intervenir tout de suite à la fin? À la fin, dit Cheryl. Très bien. Allez-y alors.
Moi, je voudrais insister sur une chose parce que je pense que les réactions des uns et des autres vont dans le même sens. Vous êtes l'hôte du régulateur des télécoms. Moi, je représente le cousin un petit peu qui hérite de ce mariage dans la famille, puisque avec la question de la convergence, nous sommes dedans. Mais j'ai un background en tant que fondateur d'une chaire UNESCO depuis une quinzaine d'années ici au Maroc, de m'être intéressé à l'ICANN. Alors je vais vous faire un aveu. Dans mon organisation, c'est-à-dire le régulateur ici au Maroc, il y a 130 personnes, 75% d'encadrement. C'est-à-dire cadre et haut cadre. J'ai posé la question autour de moi, il y avait moins de 5% qui connaissaient l'ICANN. Et ils sont dans la régulation. Entre parenthèses, je le dis pour les dames, j'ai 52,3% de femmes dans ce personnel. D'après les réactions des gens, et d'après cette réalité que j'ai connue hier, y compris des directeurs centraux chez moi, ICANN, c'est quoi ICANN? On va googler ICANN pour savoir qu'est-ce que c'est. D'après votre réaction, d'après ce que vous avez organisé ce matin, on sent que vous sentez le besoin d'informer sur ICANN, parce que cette information manque par rapport à la base. Et ça rejoint une réalité de plus en plus dans nos pays, surtout du Sud, c'est-à-dire même du Nord d'ailleurs, c'est que la société civile plus Internet donne une alchimie d'une nouvelle citoyenneté agissante. Ce qui veut dire que maintenant, le législateur même dans tous les pays se rend compte que les politiques publiques, pour qu'elles deviennent effectives et que l'implémentation soit réelle par rapport à des ONG, y compris dans des régions perdues, comme disait Aïcha, ont besoin de mettre en exergue davantage la société civile et de l'écouter davantage et de lui donner des moyens. Autrement dit, dans nos pays, inquiétez-vous si vous ne trouvez pas un rôle institutionnel à la société civile dans les constitutions, au sein des institutions, au niveau des parlements, etc. Avec cette histoire d'Internet. C'est pour ça que cet exercice d'informer davantage sur le CAN, si ce n'est rien que pour avoir la réaction de la société civile sur les process, comme vous avez dit tout à l'heure, oui, vous avez démontré cette hygiène comme quoi la démarche c'est du bas vers le haut, mais est-ce qu'on peut imaginer un État avancé où quand je fais une doléance en tant que bas, elle suit le process, mais j'ai toujours la possibilité comme recours d'être auditionné pour défendre davantage mon point de vue au cas où le board dirait « bon, on n'accepte pas ». C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une possibilité de recours? Est-ce qu'il y a une possibilité d'audition physique? Est-ce qu'il y a une possibilité? Pourquoi? Parce qu'avec l'Internet, comme disait quelqu'un, « veut pas », comme disent les Québécois, il faut absolument mettre la place à la société civile. Merci.
Je vous remercie. Vous avez consommé beaucoup de temps. On a fini, nous avons maintenant 7 minutes de retard. Je vais donner la parole à deux personnes, Rida Gallouz et Aïcha. Et je ferme le Q. Vas-y, Rida.
À proprement parler à un newcomer, j'aurais été très mal inspiré de faire... Hein? Ah, je m'appelle... Oui, c'est vrai. Je m'appelle quoi, déjà? Rida Gallouz, Association tunisienne d'éthique. Voilà. Donc, j'aurais été mal inspiré de poser des questions tellement je suis dedans. Et vous avez très bien expliqué, d'ailleurs, dès le début, un peu comment fonctionne la marmite ICANN. Mais très sincèrement, j'ai entendu une déclaration de notre amie marocaine qui m'a inquiété. Elle a dit, l'ICANN, c'est la gouvernance. Non, l'ICANN, c'est adressage, numérotage, avec des règles de gouvernance. Et donc, il me semble que nous sommes encore dans une grande confusion sur ce qu'est l'ICANN. Et je rejoins un peu les questions qui ont été posées. C'est quoi l'ICANN? Et il est largement temps aujourd'hui de remettre les pendules à l'heure, de dire ce qu'est l'ICANN, quel est le produit, quelle est la production de l'ICANN. Et fort heureusement, depuis 2 ans, on parle des règles de gouvernance de l'ICANN. Alors, traitons chaque chose à sa place, autrement il y aura une grande confusion. Merci.
Merci Rida. Dernier mot de Aïcha.
Aïcha Abad, origine marocaine. L'économie de l'avenir va venir de l'Afrique. Je l'ai entendu dire, mais tout le monde le sait. La preuve qu'il y a la gouvernance dans l'ICANN, c'est qu'on vit la transition de l'IANA. Pour moi, c'est fantastique d'être dans les 55e rencontre de l'ICANN dans la phase de transition. Pour moi, c'est un bonheur. Et je voulais juste dire merci pour Afralot de nous avoir invités. Merci pour l'Afrique.
Merci à toi, Aïcha. Cheryl, if you permit, I would like to. Je voudrais faire une remarque concernant deux points. Le premier point, c'est les gens ne connaissent pas ICANN. Il faudrait qu'on dise aux gens ce que c'est qu'ICANN. À la fin, le end user, il n'a pas besoin de savoir si ICANN existe ou non. L'essentiel, c'est qu'il sait comment utiliser l'Internet. Est-ce qu'il a le droit? À quoi il a droit, à quoi il n'a pas droit, et comment faire valoir ses devoirs et ses droits. Pourquoi on a parlé des structures d'ICANN ici? Parce qu'on a fait venir des nouvelles ONG que nous souhaitons qu'ils intègrent ICANN. C'est pour cela qu'on a été long à expliquer ça. La gouvernance de l'Internet, il y a deux types de gouvernance de l'Internet. Il y a la gouvernance de l'usage de l'Internet, dont on discute surtout à l'IGF, etc. Et il y a la gouvernance des identifiants uniques de l'Internet. Et ça, c'est ici. Donc, ici, nous parlons de la gouvernance des identifiants uniques ou des ressources techniques de l'Internet. Quand on parle de la gouvernance de l'Internet en général, c'est ailleurs, c'est pas ici. Parce que le contenu, nous, on n'a rien à voir. Je donne la parole à Cheryl pour le dernier mot.
Merci beaucoup. Very briefly. Cheryl Langdonneau for the transcript.
Cheryl Langdonneau prend la parole. Bien, merci beaucoup. Je suis une personne qui a participé ici en tant qu'observateur. Et je voudrais dire deux ou trois choses. D'abord, je veux féliciter l'équipe pour le travail qu'elle a réalisé. Et Afralo et l'Afrique font partie de choses pour lesquelles j'ai beaucoup d'affection, vous le savez. Et j'ai assisté donc au travail que vous avez fait. J'ai constaté que vous aviez fait beaucoup de bon travail. Vous faites du très bon travail avec ce type de sensibilisation. Je suis ravie de voir que ce type de programme existe. J'ai été ravie d'observer toutes ces sessions. Je félicite Tijani pour l'excellent travail qu'il a fait. Mais ce n'est que la première étape de ce travail. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous allez faire par la suite. Ce n'est juste, c'est juste une petite graine qu'on a plantée au Maroc, et maintenant j'aimerais voir l'arbre qui va pousser dans chacun des pays africains. Et maintenant je voudrais qu'on se lève pour applaudir Tijani. Merci Cheryl. C'est la conclusion de notre session. Et comme nous l'avons dit au début, nous devons parler de ce qui sera la suite de ce travail. Nous avons commencé un peu en retard, donc nous allons continuer à travailler ensemble par mail, ensemble. Hein. Je m'excuse, mais vous devez me dire comment, quelle est votre sensation, hein, de façon à ce que nous puissions continuer et faire un bon suivi pour vous aider à devenir des leaders au sein de l'ICAN. Je veux remercier notre personnel merveilleux qui a permis à cette réunion d'avoir lieu. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Hein. Donc, on les remercie. Et je veux remercier aussi nos interprètes, car vous êtes tous des francophones, ou vous parlez l'arabe ou vous parlez le français, donc on va les remercier aussi. Et il faut aussi penser à notre équipe technique qui fait du très bon travail. On les applaudit aussi. Donc, merci à tous. Et une minute, on va vous distribuer un certificat de participation à cette formation. Donc, s'il vous plaît, venez à la session de conclusion d'ALAC qui va avoir lieu de 14h45 à 17h45 ici dans cette salle. C'est obligatoire de venir. Hein. Je vous...
À 17h45 dans cette salle pour prendre vos certificats. C'est obligatoire. Ça fait partie de la formation. Merci.